No.
Non.
Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la plus belle.
Voilà, 19h passé de 3 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est l'heure du Canu Info. Donc comme toujours de la semaine, 19h-20h, et on a raté notre intro, mais c'est pas grave, hein, on voulait vous passer, on va le dire quand même, le morceau d'Assassin, l'État assassine. C'était une bonne introduction. Le morceau commence, l'État assassine un exemple, Malik Houssekine. Rappelez-vous Malik Houssekine, c'est pas l'anniversaire de sa mort du tout, mais c'était l'époque où Pasqua et Pandro avaient monté les Voltigeurs. C'était des brigades de flics, ils étaient à deux sur des motos, le deuxième derrière tenait une matraque, et ils tabassaient les manifestants, notamment les lycéens manifestants, les étudiants manifestants, enfin tous ceux qui manifestaient, et ils ont comme ça tué Malik Houssekine. Donc voilà, aujourd'hui c'était l'occasion de lui rendre hommage, puisque indirectement celui qui était le chef de tout ça, c'était Monsieur Pandreau, qui est donc décédé aujourd'hui. Alors comme tous les médias font l'éloge de cet homme politique qui a plus fait pour la médecine d'urgence, vu le nombre de manifestants qui ont été obligés d'aller voir la médecine, que pour les libertés, hein, puisque c'est quelqu'un de très liberticide, ce monsieur Pandreau. Donc voilà, c'est l'occasion de dire que ben voilà, on le regrettera pas, hein, on le regrettait pas depuis longtemps. Il avait disparu de la vie politique, il bossait juste pour l'UMP. Il nous manquait pas les périodes Pasqua, Pandreau, avec tout leur dose de matraquage. C'est les premiers moments finalement où le retour de la police au-dessus des lois et voilà, s'est développé. C'était sous Pasqua, Pandreau, un duo de choc. Donc on s'était déjà félicité des problèmes de justice de monsieur Pasqua. Et ben donc voilà, aujourd'hui c'est pas un triste anniversaire, voilà, disparition de cet homme politique que nous ne regretterons pas. Voilà, et un petit hommage quand même à Malik Houssekine, assassiné par ses policiers, par l'État français, sous la direction de ces gens. On va commencer par un meurtre, un autre meurtre, ce coup-ci. Alors, c'est un peu plus récent. On en avait parlé ici. On avait dit. Alors, c'était le meurtre d'un cadre du Hamas qui a été assassiné à Dubaï. On avait dit que les bruits. Enfin, que ça ressemblait beaucoup à une action du Mossad, donc les services secrets israéliens, qui sont spécialistes hein, pour faire ce genre d'assassinat. Il y a plein d'affaires, d'ailleurs, qui ont. Le Mossad, finalement, est un inspirateur fort d'Hollywood, hein, puisqu'il y a eu pas mal de films aussi sur les actions du Mossad. Donc là, voilà, les bruits couraient que c'était quand même, ça ressemblait vraiment à quelque chose du Mossad. Et là, on a confirmation, puisque c'est le scandale du jour. C'est la police de Dubaï hein, qui dit officiellement qu'effectivement 99 chances sur 100 c'est le Mossad qui est derrière tout ça. Il faut savoir que quand même les 11 personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé à cet assassinat possèdent des passeports européens, donc 3 irlandais, 6 britanniques, 1 français, 1 allemand, et bah, ça fait un énorme scandale puisque Londres et l'Irlande ont convoqué donc les responsables de ces deux pays ont convoqué les ambassadeurs d'Israël donc à Londres et à Dublin. Bah pour s'expliquer sur ces faux passeports européens, alors notamment britanniques et irlandais, et l'action donc des services secrets israéliens. Donc ça fait une petite crise diplomatique internationale. Donc Israël marche sur des œufs là, en essayant de calmer le jeu, en essayant de se rabibocher avec tout le monde, parce que c'est pas souvent que les services secrets israéliens se font choper la main dans le sac. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, c'est juste une info marrante, hein, parce que voilà, Israël est obligé de négocier des choses hein, pour que ça passe. On ne sait pas encore ce qu'ils vont négocier, hein, mais voilà, tout le monde est inquiet. Hein, ça va du ministre des Affaires étrangères israélien à finalement une bonne partie de la classe politique israélienne qui est inquiète. Et puis j'ai un petit mot toujours sur Israël. Et alors, on m'a fait passer l'adresse d'un site que je recommande qui s'appelle. J'ai perdu le nom, tiens. La Chambre de commerce Israël-France. Donc il y a une espèce d'assaut qui gère cette pseudo-chambre de commerce. Et il y a plein d'articles très intéressants. Alors ça fait très très peur, hein, faut pas être déprimé quand on lit ça. Alors j'ai lu plusieurs articles aujourd'hui dessus, j'en ai retenu un particulièrement. Ils font un bilan de l'avancée de l'armement de l'État d'Israël. Donc ils nous expliquent qu'une nouvelle génération d'armement est aujourd'hui en cours d'utilisation et est projetée dans les 5 ou 10 prochaines années l'achat d'armes très modernes qu'ils qualifient d'armes proches de la science-fiction. Donc là, le site nous explique qu'à cause de la censure officielle israélienne, on n'a pas trop écho de tout ça. Alors eux, ils ont fait un petit bilan de ce qu'il y a en projet. Alors on a par exemple le projet Viper. Donc le projet Viper, c'est une sorte de robot monté sur des chenilles, pilotable à distance, qui est conçu par une société qui s'appelle Elbit, qui sera équipé de micro-caméras, de capteurs, qui peut se déplacer dans tout type de terrain, qui sera équipé de grenades incendiaires et fumigènes et qui sera aussi capable de tirer puisqu'il est armé d'un fusil mitrailleur Uzi. Alors ça c'est le premier truc, c'est en cours d'utilisation puisque ça a été déjà expérimenté dans l'offensive israélienne à Gaza en janvier 2009. Donc ça c'est pas le futur, hein, c'est déjà le présent. Après on a un projet qui s'appelle Protector, donc là c'est un bateau sans pilote. Hein. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de robots et beaucoup de choses sans pilote. Israël en a marre de perdre des soldats, et il faut dire que quand même au sein d'Israël, s'il y a une partie des Israéliens qui remettent en cause la politique de colonisation israélienne, c'est à cause du fait que tout le monde va faire l'armée et que tout le monde a peur finalement d'aller faire la guerre en Palestine. Personne n'a envie de faire la guerre en Israël d'ailleurs, comme dans beaucoup de pays. Donc pour ça, ben voilà, plein de projets. Alors projet Protector, donc c'est un bateau sans pilote qui sera très discret, furtif, qui ira très vite, 40 nœuds, et qui sera équipé de caméras, de plein de choses, et de mitrailleuses, de tout ce qu'il faut. Et alors, il a déjà un surnom, ce protecteur, ça s'appelle le requin de la mer, hein, parce qu'il est déjà expérimenté par la marine de Singapour, notamment, et il devrait être acheté par l'Inde et peut-être la Corée du Sud. Alors, il y a aussi le projet Picador, développé par Aeronautics Defense System. Donc là, ça serait le premier hélicoptère sans pilote. Donc là, encore une fois, tout est automatisé, tout est robotisé, puis commandé à distance, hein, par des soldats qui se prennent pour des amateurs de jeux vidéo. Donc voilà, il y a aussi Phoenix, c'est un véhicule blindé sans pilote à nouveau, donc qui est en cours de développement. Alors là, il y a plein d'entreprises qui participent. Il y a Elbit dont on a parlé tout à l'heure, il y a Israel Aircraft Industry, il y a Genius qui participent à ce projet en coopération avec l'armée israélienne. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Il y a, je ne vais pas tout citer, il y a des mini-drones, il y a plein de choses. Ce qu'on note quand même dans toutes ces armes du futur, c'est que c'est en train de ressembler à certains films de science-fiction des années 90 ou même des années 80, où finalement la guerre... Alors, il y avait un livre de Philip K. Dick qui était comme ça, où les humains, ils avaient l'impression qu'il y avait la guerre en permanence, ils ne savaient pas bien, et c'était tout géré par des robots. Et bien là, c'est ça, hein, ce qui nous prépare, c'est une guerre avec que des robots qui tueront des êtres humains sans problème, puisque contrairement à la majorité des robots dans les romans de science-fiction, notamment d'Asimov, où il y a des lois comme quoi les robots ne doivent pas tuer les êtres humains, pour l'armée israélienne, les robots doivent tuer les Palestiniens. C'est un peu ça le concept. Donc voilà, il y a plein d'autres choses, mais c'est terrifiant, vraiment terrifiant. Toujours sur Israël-Palestine, la petite blaguette du jour, là, c'est la collégienne à côté de chez nous, la Villefranche-sur-Saône, qui a été exclue de son lycée en lien avec la cause palestinienne. Alors, ce qui s'est passé, c'était le 29 janvier, elle s'appelle Zeneb, elle vient en classe avec un t-shirt qu'elle porte régulièrement depuis 2 ans, sur lequel c'est écrit « Palestine libre ». C'est un t-shirt qui incite pas à la haine, ni à la guerre, ni à quoi que ce soit, hein. C'est dans la charte des Nations Unies, hein. Tous les peuples ont droit d'être libres et de se décider eux-mêmes, etc. Donc c'est fait un truc un peu consensuel, quoi. Donc voilà, sauf que, a priori, son prof d'histoire, c'est un mec qui est plutôt de l'autre bord. Alors, d'après ce que raconte la maman, il fait souvent des digressions dans son cours d'histoire, notamment contre les Arabes, en disant qu'ils sont juste bons à piquer la terre des Israéliens. C'est le propos de la maman. S'il tient vraiment ce genre de propos, effectivement, ce prof d'histoire est pas terrible. On a tous eu des profs d'histoire qui étaient orientés, hein, ça fait partie du jeu aussi, puisque un adulte reste un adulte, mais bon, là c'est quand même inquiétant. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il a demandé à la fille de mettre quelque chose dessus son t-shirt pour qu'il ne le voit pas, ça devait l'offenser un peu quelque part. Elle a refusé, elle est partie du collège et elle est allée voir en pleurs sa maman. Et donc le motif de l'exclusion, c'est là où tout le monde botte en touche, c'est de dire, elle n'a pas été exclue à cause du t-shirt, elle a été exclue parce qu'elle est partie de cours et du collège sans autorisation. Sauf qu'en fait, l'origine, c'est le t-shirt, tout ça. Et l'inspecteur d'académie a dit que non, elle avait été sanctionnée pour être partie du lycée, donc tout le monde botte en touche. C'est une question qui reste sensible de partout, la question israélo-palestinienne. Voilà, c'est juste un petit incident de plus là-dessus, mais voilà, c'est pas facile de défendre le peuple palestinien des fois.
Non, c'est comme Sakina Arnaud
dont on avait parlé
Parlé, voilà, qui se retrouve avec une plainte pour dégradation à la base en supermarché, avec une plainte raciale. Voilà, c'est un sujet qui est toujours très très difficile.
Ouais. Alors toujours pour revenir sur l'armée, il n'y a pas que l'armée israélienne qui se développe beaucoup. Hier dans le Canard Enchaîné, il y avait un petit article pour rappeler que le problème de la Grèce aujourd'hui, qui est un pays surendetté comme beaucoup, hein. Faudrait peut-être se poser des questions sur son armée, parce que la Grèce dépense beaucoup. Et justement, aujourd'hui, on a un écho de la Grèce qui dit qu'ils vont réduire quand même leur budget militaire. Il faut savoir qu'ils dépenseront en 2010 encore 6 milliards d'euros. Alors ils vont réduire de 6%, 6,6%. Et là on se dit, l'État grec se fout de notre gueule, ils ont des problèmes de financement, ils sont au bord de la faillite, ils sont obligés d'emprunter partout. Bah, peut-être qu'il aurait fallu diminuer d'un peu plus de 6,6% les budgets de l'armée. À savoir que quand on compare aux autres pays, la Grèce, dans les années 80, mettait 5% de son PIB dans l'armée. Aujourd'hui, elle en met 2,8%. En moyenne, dans les autres pays européens, membres de l'OTAN, c'est 1,7%. Donc ils sont presque au double de notre... Ça veut dire qu'ils auraient pu diviser de 50% leur budget de l'armée pour se coller au moins sur nous. Alors ça, c'est juste le budget de l'armée. Quand on regarde les personnels de défense, en moyenne, dans les pays membres de l'OTAN, il y a 1,1% de la population active qui est personnel de défense. C'est déjà beaucoup, moi, je trouve. Mais en Grèce, c'est 2,9%, quoi. Donc, effectivement, la première des solutions, ce serait peut-être d'arrêter de commander des armes, hein, puisqu'il y a encore des contrats en cours. Hein, ils sont en train de négocier l'acquisition de frégates franco-italiennes FREM pour 2 milliards d'euros. Bah, peut-être que la solution pour sortir de la crise, enfin, une des solutions, c'est d'arrêter l'armée et de faire comme certains pays. de revendre tout. Non seulement ils arrêteront, le budget passera à zéro, mais en plus ils vont gagner de l'argent à la revente. Mais je crois qu'il n'en est pas question. Donc voilà sur les Grecs et l'armée. Un petit mot sur un truc qui n'a rien à voir, sur le Botswana. C'est rare qu'on parle du Botswana. On n'est pas très spécialiste de l'Afrique du Sud, ce qu'on ne connaît pas bien. Alors il faut savoir que comme beaucoup d'endroits dans le monde, il y a des minorités. La minorité, c'est les Bushmen, qui sont un peuple célèbre, qui en prennent plein la gueule depuis déjà longtemps. Hein. Et là, il y a des affaires, puisqu'il y aurait au moins 400 Bushmen du Botswana qui auraient été privés de leur droit de vote. Il faut dire que la discrimination raciale envers les Bushmen au Botswana est très très forte. La preuve, traiter quelqu'un de Bushman, c'est une insulte. Par exemple, il y a le président qui a porté plainte parce que quelqu'un lui avait dit qu'il ressemblait à un Bushman. Donc effectivement, c'est une communauté qui est très mal perçue. Le président a un jour dit que les Bushmen c'était une fantaisie archaïque. En gros, quand on est peuple autochtone d'un pays, c'est pas facile. Alors ça, on en parle souvent pour l'Amazonie, on va en parler tout à l'heure avec un autre peuple dans un autre pays d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, mais là l'Afrique du Sud aussi. En fait, ils les ont tout simplement pas inscrits sur les listes électorales. Alors il y avait déjà eu des rapports de l'ONU qui expliquaient que ils étaient sous-représentés au niveau des élus, forcément, mais alors ils ont même pas le droit de vote. Donc c'est vraiment des citoyens de seconde zone. Là-bas comme ailleurs, hein, c'est pas facile d'être un peuple autochtone. Parlons un peu de la peine de mort. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de petites dépêches sur la peine de mort. Alors on a d'abord, je me suis concentré sur les pays occidentaux, sur les États-Unis cette semaine, avec la Floride qui a assassiné un détenu de 45 ans. Donc il avait été condamné à mort hein, pour meurtre. Je sais pas comment il avait fait, mais il avait eu des appels de clémence du Vatican qui avait demandé que sa peine soit commuée en prison à vie. On rappelle qu'aujourd'hui le Vatican est contre la peine de mort, ce qui n'a pas été toujours le cas, hein. Donc c'est une évolution positive, il n'y en a pas beaucoup au Vatican. Et la Cour suprême de Floride avait dit que non, il fallait pas, il fallait ni commuer sa peine ni retarder son exécution. Donc voilà, c'est la 69e être humain à être exécuté en Floride depuis 1979, rétablissement de la peine de mort. Et le 25e à être condamné par injection létale, puisqu'il a eu. Il est mort comme ça. Et puis, on a, toujours aux États-Unis, la mort du plus vieux condamné à mort, mais il n'est pas mort sur la chaise électrique ou par injection létale, il est mort de sa belle mort, mais en prison. Il ne faut quand même pas délirer. Donc, c'est de la peine de mort aussi, hein, mais il était condamné à mort. Hein. Donc, 94 ans, alors c'était le doyen des condamnés à mort. Alors, c'est un gars qui a. C'est une espèce d'histoire de cow-boy. Hein. Il est rentré en prison en 1930, à 15 ans, pour vol à main armée. Et il était dans des états qui étaient des états où c'était encore le Far West à l'époque, hein, au début du 20e siècle. Donc il a fait plein de trucs, ça se battait beaucoup à armes à feu. Et grosso modo, jusqu'à ses 94 ans, il a passé quasiment 80 années de prison. Parce que chaque fois qu'il ressortait, il retombait. Donc c'est une espèce de parcours. Je pense qu'il faudra en faire un film parce que c'est vraiment un personnage à part. Il faut quand même savoir que depuis une peine d'emprisonnement dans le Connecticut, il a développé une maladie mentale. Il y a pas mal de détenus qui ont des parcours un peu particuliers comme ça. La prison est soit le facteur déclenchant, soit carrément l'origine de la maladie mentale. Donc il était reconnu comme retardé mental, comme ayant une maladie mentale. Il était presque aveugle et handicapé. Bon, ça n'empêche pas qu'on l'a laissé mourir en prison. Donc voilà. Et puis, un truc qui serait drôle, mais qui ne l'est pas. Alors, il y a un groupe de pays occidentaux, États-Unis, France, Royaume-Uni, Italie, qui ont fait une demande officielle à Bagdad, donc à l'Irak, de faire d'abord un moratoire sur la peine de mort, et puis après de supprimer la peine de mort. Il faut savoir que ces 5 dernières années, il y a eu 122 exécutions en Irak, en exécution officielle, hein, pas parce qu'il y a beaucoup plus de morts en Irak que ça, mais exécution officielle, et il y a actuellement 925 personnes qui seraient dans le couloir de la mort. Le truc hypocrite, c'est que dans ces 4 pays qui ont demandé ça, il y a les États-Unis, quoi. Alors les États-Unis qui appliquent la peine de mort chez eux, ils demandent aux autres pays de ne pas l'appliquer. C'est une fois de plus, on donne des leçons aux autres, mais ne faites pas ce que je fais. Donc voilà, ça a peu de chances d'aboutir, mais c'est dommage, hein, parce que ça aurait été positif. Mais c'est quand même pas très crédible des Américains de demander que les autres pays n'appliquent plus la peine de mort, quoi. Un petit mot sur Voilà, sur les Jeux Olympiques qui sont quand même finalement une forme de dictature insidieuse qui envahit les démocraties. En gros, pendant que les JO ont lieu dans n'importe quel pays, bah, la démocratie s'arrête. Alors vous allez me dire, en Chine on l'avait vu, mais il n'y avait pas de démocratie, donc c'est encore plus flagrant que les JO collaboraient avec les dictatures, ça il n'y avait pas de souci. Mais là, c'est plus marrant à la rigueur, c'est au Canada, vous savez qu'il y a les JO en ce moment, alors si vous êtes fan de neige et de sport olympique d'hiver, vous vous levez à 3h du matin pour regarder les retransmissions sur la télé. Donc les JO ont lieu en ce moment au Canada. Et alors on avait parlé de l'opposition un peu, puisqu'il y a eu de l'opposition à ces JO, notamment des peuples autochtones. Il faut rappeler que les Canadiens, la majorité des Canadiens sont des colons, enfin des descendants de colons, et qu'il y a encore des Indiens, et il y a une partie des terres sur lesquelles ont lieu les Jeux Olympiques qui n'appartiennent pas au Canada en fait, qui appartiennent toujours officiellement aux Indiens, qui n'ont jamais été, mais qui sont toujours occupés illégalement, même illégalement vis-à-vis du Canada, des lois canadiennes. Donc il y a eu plein d'oppositions. Et il y a justement un journaliste américain, Macias, qui bosse beaucoup pour une structure qui s'appelle No Game Chicago. Il faut savoir que Chicago, en 2016, voudrait avoir les Jeux Olympiques. Et lui fait partie donc de cette structure qui milite pour que Chicago n'ait pas les Jeux Olympiques. Alors il y a plein de raisons, sociales, écologiques, environnementales, tout ce qu'on veut. Donc il a fait déjà plusieurs déplacements, il est allé au CIO à Lausanne, et puis après il est allé à Copenhague, il a distribué plein de documentation. Donc il est à la fois journaliste, mais il est aussi impliqué personnellement en tant que citoyen dans la lutte contre les JO à Chicago. Il vient au Canada pour assister, puisqu'il est invité à Vancouver pour une conférence, justement comment lutter contre les JO, comment s'opposer aux Jeux Olympiques. Eh ben, comme les Jeux Olympiques sont un système totalitaire, quand il arrive à la douane, en sortant des États-Unis, les douaniers étaient au courant. Il arrive, il contrôle, il demande qu'est-ce qu'il fait là, il explique, moi je vais à une conférence à Vancouver, tout ça. Ils l'ont interrogé de manière agressive pendant 2 heures et ils l'ont jeté. Et le journaliste a dit, mais je comprends pas là, quels sont mes droits ici, j'ai quand même des droits, je suis citoyen américain, le Canada est une démocratie, on lui dit, vous avez aucun droit ici. Et ils l'ont expulsé. Donc voilà, le totalitarisme des Jeux Olympiques peut être quand même relativement fort, même dans un pays qu'on qualifierait pas de totalitaire, hein, comme le Canada. Voilà. Mais on sait que, par exemple, toute l'opposition aux Jeux Olympiques n'a quasiment pas eu le droit de parole, ni dans les médias au Canada, et encore moins dans les médias internationaux. En France, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de reportages faits sur l'opposition aux Jeux Olympiques. Et pourtant, il y en a à chaque fois.
Il y en a à chaque fois, et c'est assez rare finalement. Mmh. Il a fallu aussi un petit peu sur la Chine, parce que la Chine, il y a les droits de l'homme, voilà. Alors ça donnait un petit peu du piment aux journalistes. Mais c'est vrai que sur la Grèce, finalement, malgré tout ce qui s'était passé dans les mouvements sociaux, quand même des mouvements de rue, on n'avait quand même pas appris grand-chose par les médias des revendications des Grecs. Et alors là, c'est encore, je trouve encore plus vraiment le noir total. Hein. Très
et pourtant,
d'idées.
Ils ont embêté le passage de la flamme, ils ont fait plein de choses. Hein. Mais non. Voilà. Allez, on va parler un peu de la France. Tu avais d'autres choses sur l'international, toi ?
Oui, je voulais juste parler un petit peu, de revenir sur la Corée du Sud. Puisqu'il y a eu quelque chose d'assez important qui s'est passé la semaine dernière, on l'a appris en fin de semaine. C'est le ministre des Affaires étrangères japonais, monsieur Okada, qui s'est excusé lors d'une visite en Corée du Sud pour les 35 ans de colonisation japonaise en Corée. Hein, ça a été une colonisation qui a commencé en 1910, qui s'est terminée en 45 avec la Seconde Guerre mondiale et la chute du Japon. Il faut rappeler que la colonisation, comme toute colonisation, vous me direz, elle a été violente, mais là particulièrement, hein, il y a eu quand même une chasse aux Coréens. Les Coréens étaient invités à changer de nom. Il y a vraiment eu une résistance, mais qui a été malmenée. Attaqué de tous les côtés, une ségrégation très importante, une occupation très très longue, une mainmise économique qui a quand même longtemps gêné la Corée du Sud en l'occurrence à s'en sortir. Donc voilà, c'est des premières excuses qui arrive. Il y en a beaucoup à faire, hein. On pourrait parler de ces militaires japonais à qui on proposait ces femmes coréennes qui avaient été enlevées de chez elles pour servir de prostituées, hein, qui ont été violées, exactement. Donc voilà, c'est un premier départ, mais c'est déjà une bonne chose que le Japon commence à faire un petit retour sur son histoire impérialiste.
Difficile à voir. Toujours en mouvement est l'avenir.
Le Kenny Info de Radio Kenny.
Alors moi je voulais revenir un petit peu sur un mot, l'ACTA. Voilà, A-C-T-A. Si vous êtes souvent sur internet et si vous suivez un petit peu ce qui peut s'y passer, et si vous avez suivi et Adopi et Loupi, vous avez sûrement pas loupé l'ACTA. Alors c'est quoi ? En français c'est l'ACRC, mais vous trouverez jamais ça sur dans la plupart des articles. Ça veut dire l'accord commercial relatif à la contrefaçon. Et alors c'est quelque chose qui est très intéressant puisque c'est en train de se mettre en place au niveau mondial, hein. C'est vraiment quelque chose qui est en train de s'étendre, qui a commencé en 2007 avec des premières réunions entre différents pays, dont les États-Unis et le Japon. Et depuis, il y a l'Australie, le Canada, l'Union européenne, hein, le Mexique, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et la Suisse qui ont rejoint cette donc proposition d'un traité international multilatéral, pardon. Et donc ça concerne quoi ? Ça concerne particulièrement donc les droits de propriété intellectuelle, la lutte contre les produits contrefaisants et les échanges illicites de fichiers sans autorisation des ayants droit. Vous l'aurez compris, c'est un traité qui est en train de se monter, hein, dans le plus grand secret, contre le piratage, contre la contrefaçon. Alors, on nous vend ça pour l'instant un petit peu comme étant une bonne chose pour nous. Il faut le savoir, et oui, puisqu'on nous dit que c'est bien, c'est pour lutter contre, par exemple, les faux médicaments, les pièces d'automobile, hein, qui risqueraient de vous faire avoir un vilain accident sur l'autoroute, ou alors contre ce mot qui est un mot très très moche, qui est employé, c'est-à-dire la pédopornographie, qui est un mot qui ne veut rien dire, puisque je vous rappelle que la pédophilie, c'est du viol. Donc la pornographie, elle est légale quand même dans un certain nombre de pays, elle est en général entre adultes consentants. Donc employer ce mot à tort et à travers, hein, le gouvernement aime bien, on entend les ministres employer souvent ce mot pour faire passer tous leurs derniers projets, hein, dont l'Oupsi, tous ces projets-là. Alors là, la différence, c'est qu'évidemment ça touche un certain nombre de pays, des pays dont la législation n'est pas aussi avancée que la France, parce que la France dispose quand même d'un arsenal sur la contrefaçon qui est assez important, hein, vous risquez amende et prison. Je vous le rappelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un traité dont les démarches sont en train de se faire hors des instances internationales comme l'OMC, puisque l'OMC a déjà mis en place un accord, hein, sur les principaux secteurs de la propriété intellectuelle. L'Union européenne, pareil, elle a déjà mis un certain nombre en place à travers un certain nombre de processus en place à travers deux directives importantes, dont celle de la directive sur le commerce électronique, hein, puisqu'évidemment cette ACTA vise en particulier Internet et tout ce qui peut s'y passer, mais pas seulement. L'idée, c'est d'avoir encore une fois un méga douanier, de donner des pouvoirs toujours plus importants à la fois aux États, c'est-à-dire à la police, aux douaniers, pour qu'ils puissent rentrer chez vous. C'est le principe de la loupsie, hein, toujours, voilà, de franchir toujours les portes de chez vous toujours plus facilement. Et puis aussi donner plus d'importance à ce qu'ils appellent les ayants droit, hein. C'est une belle manière de définir les gens, les personnes, les entreprises qui sont propriétaires d'un certain nombre de produits, hein, parce que là on parle pas que de droits d'auteur, hein. Mmh. faut pas se tromper, hein. Donc voilà, c'est aussi ce côté-là, c'est-à-dire que là il y a une espèce quand même de belle rencontre entre les États et le capitalisme, hein, c'est une certaine fascisme, hein, en tout cas une définition marxiste du fascisme, quand les puissants s'organisent pour rentrer dans votre vie privée, la violer, mettre des lois en place pour encore réguler un peu plus le marché, et forcément pas en notre faveur. Alors il y a tout un tas de documents qui ont quand même fuité, en particulier sur Internet, parce que c'est là où il y a eu les premiers réseaux de vigilance. Donc on en a appris un peu plus. Alors il y a un nombre de, il y a un certain nombre de d'entreprises hein, qui sont liées à cette démarche de création de traités. On ne sait pas bien encore ce qui va réellement en sortir, puisque même les participants n'ont pas le droit de sortir avec les documents. C'est un petit peu... je pense que les gens qui aiment la théorie du complot doivent être très contents de ce genre de truc. Ça doit les faire beaucoup fantasmer. Mais n'empêche que c'est vrai qu'on peut quand même se demander pourquoi est-ce que au Canada, en Europe, aux États-Unis, toutes les associations, toutes les organisations politiques qui ont demandé à avoir les comptes rendus de ces négociations ont eu la porte fermée, hein, c'est une fin de non-recevoir. Aux États-Unis, c'est classé secret défense. Donc, Monsieur Obama, le grand démocrate qu'on nous avait annoncé, a quand même quelques méthodes, lui aussi, hein, pour cacher certaines choses. Il a aussi, hein, forcément, ses amis du patronat et de la bourse qui sont derrière lui. Donc voilà, c'était juste un peu pour revenir ça. Le grand truc aussi, ça serait, c'est que ça, ce traité demanderait aux fournisseurs d'accès à Internet de mettre en place tout un tas de mesures pour rentrer chez vous facilement, pour vous couper vos lignes. C'est-à-dire que c'est... Adopi, Loopsy, toutes ces choses-là, c'est un espèce de mélange des genres entre du sécuritaire, voilà, enfin tout ça au nom du capitalisme, bien entendu. Il faut pas s'y tromper, hein, malgré la manière dont un certain nombre d'élus et de ministres essayent de nous vendre ça, en particulier à l'UMP. Donc voilà, il y a la Quadrature du Net par exemple, qui est le site sur lequel vous pouvez retrouver un certain nombre de gros dossiers.
Comme c'était déjà le cas d'ailleurs sur Adopi, hein, ils avaient fait beaucoup de boulot.
Voilà, donc c'est très intéressant parce que par exemple là on a appris que 300 écharpes contrefaites de l'OL avaient été saisies lors d'une grande opération policière et douanière. Voilà, donc c'est effectivement... contre ce genre de produit que l'ACTA va aussi se battre, hein. Pas juste sur la copie de film ou sur les faux médicaments. Voilà, ils se sont tous fait coincer, c'est bien dommage.
Alors, un petit mot sur une action qui a été un peu symbolique, qui a eu lieu à Paris le 14 février dernier. Le 14 février dernier, c'était la Saint-Valentin. Et il y a des gens qui ont voulu faire un peu de provoque. Donc, un groupe de, a priori d'homosexuels, puisque c'était le but était de revendiquer le droit des homosexuels, sont allés devant le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour faire une... alors ils étaient pleins et le but c'était de s'embrasser pour dire voilà, on a le droit de s'embrasser en public aussi quand on est homosexuel. C'est vrai que ça se fait pas bien parce qu'il y a encore, il y a tellement de racisme, tellement d'homophobie en France que les homos ne se tiennent pas par la main dans la rue et ne s'embrassent pas non plus dans la rue, c'est pas facile. Donc ils voulaient faire ça, sauf que c'était sans compter sur l'alliance de la religion et de la répression, puisque et la police et les cathos étaient là pour les en empêcher. Donc voilà, quand vous venez en groupe pour vous embrasser devant le parvis de Notre-Dame de Paris, qui n'appartient pas à l'Église catholique, hein, qui est un bâtiment public, qui appartient à l'État français, donc aux gens qui étaient là pour s'embrasser, ils ont été pris à partie violemment et par les forces de l'ordre et surtout par les cathos. Donc voilà, le racisme et l'homophobie existent toujours, notamment chez les cathos et les forces de l'ordre, hein, qui étaient au service ce jour-là des cathos. Il faut rappeler quand même la phrase de Nicolas Sarkozy qui disait « Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur ». C'est sûr que quand on tient ces discours-là, la laïcité n'existe pas, hein, puisque justement la laïcité c'était de dire c'est l'instit qui va nous apprendre les choses, avec la famille, tout ça, mais c'est l'instit qui va être porteur des valeurs républicaines, notamment de la laïcité, tout ce que c'est que la religion, etc. Aujourd'hui non, Nicolas Sarkozy vend la religion. Donc voilà, ça fait quand même très très peur que les homos n'aient pas le droit de s'embrasser en public. Et puis la censure du jour, hein, après la censure de la semaine dernière de cette artiste chinoise, alors pour le coup quand on en a parlé ça n'avait pas encore fait le tour des médias, et puis le lendemain ça a explosé, tout le monde en parlait. Aujourd'hui, le buzz du jour, hein, parce qu'on va utiliser le mot moderne sur internet, moi je suis très buzz moi, c'est le titre de Manu Solo qui disparaît. Donc il faut savoir qu'il y a pas mal de temps, ça devait être dans l'avant-dernier album, Les Animals, Manu Solo avait écrit un morceau dans lequel il dit « Travail, famille, Sarkozy, c'est la compassion pour les nantis », un des rares morceaux très, très politiques de cet album d'ailleurs. peut-être le seul. Alors jusqu'à maintenant, il était disponible et en téléchargement légal et en écoute sur les sites comme la Fnac, Deezer et des choses comme ça. Et depuis aujourd'hui, impossible. Donc aucun des sites sur lesquels on peut télécharger ou écouter ce morceau ne permet, ne propose ce morceau. Alors quand il le propose, en fait, quand on télécharge ce morceau qui s'appelle Du Vent, eh ben, c'est pas ce morceau-là qu'on télécharge, c'est un autre, ils l'ont remplacé par un autre morceau de Mano Solo. Donc il y a une énorme censure. Alors là, aujourd'hui, la maison de disques dit que c'est une erreur, qu'il n'y a pas de censure, c'est juste qu'ils se sont trompés dans les morceaux. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quelques semaines, ce n'était pas le cas. Voilà. Donc une nouvelle censure. Le plus triste, c'est que c'est un mois à peine après la mort de Mano Solo. Il est déjà censuré. Putain, ça craint quand même. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle preuve de cette censure, de cette auto-censure, parce que on imagine. Oh, peut-être que j'invente, mais je ne sais pas si les services de l'Élysée ont appelé la maison de disques en disant vous me censurez ça. Mais c'est que, je ne sais pas, il y a quelqu'un de la maison de disques qui a dû réécouter ce morceau, qui a dû se dire mais non, mais on ne peut pas avoir ça dans notre catalogue aujourd'hui, on ne peut pas avoir ce genre de propos. Il l'a fait effacer. C'est plutôt de ce genre d'autocensure qui est la pire de toutes les censures, parce qu'elle est insidieuse, celle-là. Ça veut dire que l'État est vraiment devenu totalitaire et que Sarkozy est quelqu'un d'intouchable. Voilà, on ne doit pas se moquer, le critiquer. Voilà. Tu parlais de l'OL, moi j'avais une info sur l'OL. Eh ben ouais. Donc, amateur de foot, bon non, si vous êtes amateur de foot, vous n'écoutez pas Radio Canu. Donc, amis au QI de poule, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'écoutez pas, mais je vous la donne. Votre club préféré est encore en perte. Et oui, on rappelle que l'Olympique Lyonnais, c'est pas un club de foot. Hein, officiellement, c'est pas ça du tout. Officiellement, c'est une entreprise dont le but est de gagner de l'argent, qui est inscrite en bourse. Et donc, on a les infos, puisque pour l'année dernière, donc 8,7 millions d'euros de pertes pour le premier semestre 2009-2010, donc l'année dernière. Et l'année d'avant, c'était 2,4 millions de pertes. Donc, alors là, ils disent que ouais, c'est la crise, il y a eu moins de d'achats de sponsoring, de trucs comme ça. Et puis en plus, les résultats sont un peu moins brillants. Mais quand ils étaient brillants, que c'était pas la crise, ils perdaient déjà 2,4 millions d'euros. Hein, donc, c'était déjà pas une bonne affaire capitaliste. Alors déjà que c'est pas une bonne affaire au niveau du foot. Voilà. Je vais parler on va parler un peu des fausses solutions qui sont proposées aujourd'hui pour lutter contre les problèmes environnementaux et les problèmes de santé publique. Alors la première mesure qui m'a fait réagir et qui m'en a fait chercher d'autres, c'est celle qui a été donnée par François Fillon aujourd'hui, puisqu'il a reçu 14 mesures décidées par le comité interministériel de la sécurité routière pour lutter contre les accidents de la route. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'année dernière, 4262 personnes sont mortes directement sur la route. Alors, il ne nous donne toujours que ces chiffres. On rappelle que la pollution automobile tue à peu près le double chaque année. Hein, on est entre 8 et 10 000 minimum morts par an dus à la pollution automobile. Cela, on n'en tient pas compte naturellement. Donc on nous explique qu'il faut prendre plein de mesures. Alors il y a 18 mesures, 14 mesures plutôt. Donc on nous dit on va développer les éthylomètres. On va développer les tests salivaires pour voir les gens qui prennent de la drogue. On rappelle que les tests salivaires, ils détectent que certaines drogues. Hein, les drogues légales, les médicaments qui entraînent l'interdiction de conduire, elles sont jamais recherchées. Pourtant, c'est la drogue la plus courante. C'est les drogues les plus courantes utilisées par les automobilistes. Donc voilà, on nous dit qu'on va rajouter des zones avec plein de radars. En fait, on va dire que la zone est sous radar, mais les automobilistes ne sauront pas où est exactement le radar. Ils ne pourront pas ralentir devant le radar. Enfin voilà, plein de choses. Et pourtant, quand on réfléchit, on se dit, mais il y a une idée simple si on veut diminuer le nombre d'accidents de la route. Alors certes, les mesures coercitives peuvent être utiles, mais il y en a une autre. C'est inciter les gens à pas prendre leur voiture et développer les transports alternatifs à la route, comme le train, par exemple, parce que ça fait très longtemps qu'il y a eu zéro mort, hein, je crois, l'année dernière en accident de train. C'est quand même plus efficace que les 4000 et quelques morts dus à l'automobile. Donc, dans les 14 mesures, il y aurait eu des mesures d'incitation à prendre le train plutôt que la voiture. Et bien là, on aurait gagné. Alors, on aurait gagné sur l'environnement, parce que le transport en commun pollue beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que la voiture, donc on aurait en plus fait baisser ce chiffre d'à peu près 10 000 morts par an dû à la pollution automobile, mais on aurait fait baisser mécaniquement aussi le nombre d'accidents, parce que là on parle des morts, mais c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont blessées, handicapées chaque année. Non, non. on fait que des mesures, voilà, qui ne touchent surtout pas à ce symbole masculin et ben non féminin d'ailleurs, qui est la voiture. On n'y touche pas, c'est devenu, c'est Dieu un peu l'automobile.
Oui, d'ailleurs, l'État va prêter à taux zéro 100 millions d'euros à Renault pour sa nouvelle voiture électrique, hein, c'est la quatrième dans les starting blocks de Renault, qui s'appelle la Zoé, n'est-ce pas, qui va, dont la fabrication va commencer en juin 2012. 100 000 voitures seront prévues, puisque c'est la voiture, la première voiture prévue en série, la voiture électrique prévue en série par Renault. Mais il n'y aura pas que ces 100 000 euros, puisque ça, c'est pour, en fait, c'est une somme qui est destinée à l'aménagement de la chaîne de production. Hein, mais il va y avoir 250 millions d'euros de prêts alloués à par l'État pour l'industrialisation des voitures zéro émission, c'est-à-dire c'est un plan beaucoup plus large, hein, qui touche pas simplement Renault. Il y a encore, je sais plus combien, 200 millions d'euros qui vont aller aussi dans la filière automobile et électrique, c'est-à-dire que l'idée, soi-disant, de l'État et du gouvernement, c'est de créer des partenariats, de développer et puis de créer de l'emploi.
Ouais, alors que, ouais, alors que ça changera jamais rien sur le nombre d'accidents de la route, par exemple, que la voiture soit électrique ou pas. Alors que le train qui est déjà électrique, si on le prend, bah, effectivement, il n'y a plus d'accidents de la route.
Ouais, alors bon, voilà, mais après j'avais une bonne nouvelle pour toi aussi concernant les voitures, et en particulier les grosses. Alors il s'agit pas de 4x4 mais de Ferrari, hein, puisque les ventes ont chuté.
Ah, et oui. Mince.
Et oui, oui, de 5%.
En même temps, 5% sur des ventes de Ferrari, ça fait pas beaucoup de Ferrari en moins en
Surtout qu'il faut savoir que le secteur de l'automobile de luxe est le secteur qui a le mieux résisté dans le luxe, puisque le luxe, on est à peu près à 39% en moyenne de chiffre de baisse, sur au niveau du chiffre d'affaires, au niveau sur une petite baisse quand même, hein, vous voyez. Les 5%, ils sont là, mais il paraît qu'ils vont se relancer, puisqu'ils voudraient essayer de présenter un modèle hybride, eux aussi. Ils surfent sur la vague, puisqu'apparemment les riches... aussi, ça aime l'écologie de temps en temps, en tout cas, ça aime paraître.
La fausse écologie.
Paraître propre. Voilà, c'est ça l'important. Je me suis dit, voilà, ça te ferait plaisir de savoir qu'il y a un peu moins de Ferrari.
Ouais, ça me fait
finalement
plaisir. Oh, j'en croise pas souvent quand même. Sinon, dans les fausses solutions, ça nous vient de Chantal Joanneau, donc, qui est en tête de liste parisienne de l'UMP. Donc, elle fait beaucoup de propagande pour se faire voir, hein, pour gagner cette élection. Et elle est secrétaire d'État à l'écologie, donc qu'est-ce qu'elle a dit ? Oh ben, ce serait pas mal qu'il y ait un péage urbain à Paris. Donc voilà, le fils de retour de la vengeance de cette mauvaise idée que sont les péages urbains. Alors, il y a plein d'exemples, hein. Londres, Stockholm, Milan, Oslo, plein d'autres villes, voilà, ont mis ce péage urbain. Grosso modo, ça a fait baisser la circulation automobile, c'est vrai. Ça a fait baisser un peu la pollution, c'est vrai. Mais... la contrepartie, c'est qu'il y a des gens qui peuvent toujours polluer. Alors, en fait, c'est des sortes de droits de pollution qui sont donnés aux plus riches, les péages urbains. C'est-à-dire que quand vous êtes riche, vous pouvez payer sans problème à Londres les 8 livres, c'est-à-dire les 10 euros pour rentrer dans Londres. Si vous êtes pauvre, vous n'avez pas le droit de polluer, vous prenez les transports en commun. Donc ces péages, c'est voilà, une discrimination, c'est les riches ont le droit de polluer, puisqu'ils ont les moyens, les pauvres n'ont pas le droit, donc ils prennent les transports en commun. Alors que, finalement, l'idée du péage urbain qui serait efficace est interdiction à toute voiture de rentrer en ville, sauf à la rigueur les habitants, alors qu'ils ont le droit de rentrer dans leur quartier pour aller garer leur voiture en attendant qu'il n'y ait plus de voiture, mais rien d'autre, quoi. Pas d'exception quand on paye et quand on est riche. Donc voilà, c'est la fausse mauvaise nouvelle. Ceci dit, elle se présente au nom de l'UMP, donc elle défend forcément les riches, donc voilà, les amis qu'elle défend ont bien compris que quand elle parlait du péage urbain, eux, ils ne seraient pas concernés. Hein, ça serait les pauvres qui seraient embêtés pour rentrer en ville en voiture. Voilà. Puis toujours sur Paris, d'ailleurs, il y a Air Paris, qui est le réseau qui gère la qualité de l'air, qui a fait un petit bilan en disant, voilà, que si on regarde l'année 2009, 5 polluants sont problématiques à différents degrés en Île-de-France, et que grosso modo, une personne sur 4, c'est-à-dire à peu près 3 millions de franciliens, sont exposés à des niveaux de pollution qui ne respectent pas la réglementation. Voilà. Donc l'État, hein, qui demande par exemple au boucher de respecter la loi et qui, quand le boucher ne respecte pas la loi, lui met des amendes, il lui fait fermer sa boucherie, l'État n'est pas capable lui-même de faire respecter sa propre loi sur son territoire en limitant la circulation des voitures. Les routes, elles appartiennent jusqu'à preuve du contraire encore à l'État. Donc l'État pourrait contrôler la circulation automobile. Non, l'État préfère dépasser les normes qui n'ont qu'une seule conséquence finalement, de faire mourir les gens. Puisque hein, c'est le problème, faire émourir les gens et donner de l'asthme aux enfants. Il y aurait à peu près 30% de l'asthme déclaré chez les enfants qui serait dû à la pollution automobile. Donc voilà pour la pollution. Et puis j'ai un petit mot, toujours, je vais rester dans l'écologie maintenant moi, un petit mot sur l'élevage. Alors on a un énorme rapport de la FAO, la Food and Administration, je crois que c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Donc ils ont fait une grosse analyse sur l'évolution de l'agriculture et notamment l'élevage. Sauf que, comme d'habitude, ils prennent les mauvaises solutions. Alors, d'abord, les constats, qui sont plutôt justes. Alors, par exemple, on apprend que la consommation mondiale d'aliments issus de l'élevage, viande, œufs, produits laitiers, progresse à grande vitesse. Aujourd'hui, par exemple, un Chinois mange en moyenne 60 kg de viande par an. C'était 13,7 en 1980. Donc, c'est énorme. De même, il a multiplié sa consommation de produits laitiers par 10. Il faut dire que les produits laitiers ne sont pas du tout une tradition chinoise. Donc c'est une tradition capitaliste occidentale qui est ramenée artificiellement et qui se développe beaucoup pour le coup. Alors ils nous expliquent ça, ils nous disent voilà, c'est un peu un problème, c'est la croissance rapide des secteurs de l'élevage qui sont destructeurs de l'environnement. Alors ils nous donnent des chiffres qui font très peur. 18% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'élevage, 8% de la consommation d'eau est pour l'élevage et 80% de la superficie agricole de la planète sert à l'élevage. Ça veut dire que si on arrêtait l'élevage, il n'y aurait aucun problème de faim dans le monde, puisqu'on aurait largement de quoi nourrir plus que toute la planète, puisque en changeant de consommation alimentaire. Alors il nous explique plein de choses. Il nous explique que quand les pays s'enrichissent, ils changent de régime alimentaire, ils passent des céréales à la viande, donc les protéines passent des protéines végétales aux protéines animales. Alors eux, ils y voient plutôt un bien. Il nous explique que c'est plutôt mieux pour la santé, les gens mangent mieux. Alors les gens, quand ils s'enrichissent, ils mangent pas mieux à cause du passage à la viande, mais parce qu'ils ont plus de choix, ils peuvent acheter plus de produits, varier leur consommation. Pour la FAO, c'est inéluctable, il faut trouver les moyens d'accompagner tout ça. Donc déjà, c'est la première démarche négative de la FAO qui a rien compris. Deuxième remarque de la FAO, ils se disent... on a remarqué que 75% des nouvelles maladies qui ont affecté les humains depuis 10 ans sont causées par des pathogènes venant d'animaux ou de produits d'origine animale. Donc là, bien sûr, ils ne remettent pas en cause. Ils disent, ah non, il faudrait augmenter les mesures de sécurité et d'hygiène. Or, on sait que, un, si l'élevage est fait en très petite quantité, les pathogènes se développent beaucoup moins, que c'est le développement industriel de l'élevage qui en est responsable, et que, deux, il n'y a quasiment aucune contamination, enfin très très peu, liée à des produits qui ne viennent pas du monde animal. Hein, quand on mange des céréales, des choses comme ça, il y a beaucoup moins de maladies qui passent à l'homme. Il y a très peu de maladies, grosso modo, qui passent des plantes à l'homme, alors que qui passent des cochons à l'homme, on a vu qu'il y en avait quelques-unes. Donc voilà, c'est un rapport qui est très intéressant parce que sur les bilans, ils sont justes. Ils nous rappellent que manger de la viande, ça détruit l'environnement. Et manger de la viande tous les jours, voire deux fois par jour, c'est suicidaire. Mais par contre, bah voilà, pour eux, la solution, elle est qu'il faut augmenter l'agriculture productiviste, etc. Il n'y a pas de remise en cause du mode occidental de nourriture qui est un régime carné aujourd'hui, alors qu'on pourrait vraiment s'en passer. Donc voilà, c'est de bons constats, mais très mauvaise analyse et très mauvaise solution.
Oui, une dernière petite info supplémentaire, peut-être dans l'environnement. Il faut savoir qu'il y a des pays quand même qui mettent en place des solutions radicales, puisque au Venezuela, il y a une sécheresse, hein, il y a aussi des soucis sur la répartition de l'eau. Et maintenant, la consommation, elle est limitée. Et donc, un consommateur à Caracas, hein, qui dépassera le seuil de 40 mètres cubes d'eau par mois, va devoir payer plus cher les mètres cubes supplémentaires. Voilà, donc c'est une réponse radicale.
C'est pas bête. Dans l'idée de base, on pourrait même dire un être humain a besoin de tant de quantité d'eau. À la rigueur, cette quantité est gratuite. Et puis quand il dépasse, et ben c'est interdit tout court. Dans un système idéal, ce serait ça un peu à la soviétique un peu là. On dit
jusque là ils y vont pas quand même avec le dos de la cuillère, hein, puisque le mètre cube supplémentaire c'est 3,5 à 5 fois plus cher.
Oui, ce qui fait qu'on revient au système de tout à l'heure où les riches achètent un droit à surconsommer, à polluer. Ils ont tous les droits finalement. Dès que t'as de l'argent, t'as tous les droits de détruire la planète par exemple. Alors que les pauvres, ils ont pas les moyens de le faire. Voilà. Ils ont le droit, mais ils ont pas les moyens.
Et quand même des mesures de classe qui ont quand même un petit peu leurs limites.
Hein. Oui. Non, mais c'est vrai que dans l'idée, l'eau devrait être gratuite parce que c'est une denrée, c'est un truc fondamental, et on devrait avoir une quantité autorisée qui suffisante pour vivre normalement et pas gaspiller. J'ai encore des petits mots sur l'environnement. Alors justement, quand on parle de l'agriculture productiviste, ça entraîne plein de conséquences négatives. Alors il faut savoir que le 16 mars prochain, deux agriculteurs passent devant la justice pour avoir refusé, deux éleveurs en fait, pour avoir refusé de faire vacciner leurs animaux. Alors c'était en 2009, donc l'année dernière, lors d'une grande campagne de vaccination contre la fièvre catarrhale ovine. Ils ont dit non. C'est des éleveurs bio et conventionnels qui disent que il faut changer l'approche productiviste, l'approche ultra hygiénique. Donc voilà, il faut dire qu'eux, ils sont beaucoup moins concernés. Alors il faut savoir qu'il y a des milliers d'éleveurs qui sont dans 70 collectifs qui luttent contre le système productiviste et notamment les vaccinations obligatoires. Sauf que, donc là, ils sont poursuivis en justice. Il faut savoir qu'ils risquent une amende. C'est 750 euros par animal non vacciné, donc ça va très très vite. Et puis qu'il faut savoir que si ces campagnes sont mises en place, c'est parce que l'état sanitaire des industriels de l'élevage est déplorable. Il faut dire que vous imaginez quand vous avez 5000 bêtes et qu'il y en a une qui commence à attraper une maladie, bah, elle la donne aux 5000 autres, alors que le petit agriculteur qui a 10 vaches ou 10 ovins ou 10 je ne sais quoi, bah voilà, son petit troupeau il meurt, il passe à autre chose, lui c'est une perte, mais ça contamine pas des millions de bêtes, etc. Donc forcément les impacts sont pas les mêmes et donc les exigences sont pas les mêmes. Et il y a quand même une inégalité, c'est qu'aujourd'hui ce sont les industriels qui imposent, qui créent ces lois, qui font pression sur les politiques, ou qui sont proches des politiques, comme la FNSEA est proche de l'UMP ou avant du RPR, parce qu'il y a des gens qui sont à la fois au RPR et dans la FNSEA, et qui sont eux qui font les règles hygiéniques, administratives, et qui imposent ces règles à tout le monde, notamment aux petits agriculteurs qui voudraient avoir une agriculture différente, notamment les bio. Donc voilà, c'est pour signaler ça, on en parlera je pense au mois de mars quand ils auront eu leur procès. Et puis un petit mot sur l'énergie atomique qui a le vent en poupe. Faut dire que ils ont un bon leader, c'est Barack Obama. Alors Barack Obama, qui est quand même l'Américain qui tue le plus de personnes dans le monde à travers les guerres, pas directement naturellement. On sait qu'il a tué plus que l'année dernière que George Bush avant, notamment en Irak et en Afghanistan, notamment avec les drones. C'est aussi le président qui va relancer la pire industrie pour fabriquer de l'énergie électrique, c'est-à-dire le nucléaire, puisque là il a promis, c'était il y a quelques jours dans le Maryland, d'investir 8 milliards de dollars de garanties de prêts pour construire une nouvelle centrale nucléaire. Alors, les États-Unis sont le pays qui a le plus de centrales nucléaires au monde, 104 centrales, mais en proportion, ça représente assez peu dans la proportion d'énergie électrique. Et d'ailleurs, il a cité la France en exemple en disant « Regardez, la France, on a plein de centrales, ça va bien ». Il faut dire que les États-Unis ont arrêté en 1977... parce que alors il y avait plein de projets après 77, sauf qu'en 79 il y a eu Three Mile Island, accident, fusion du cœur d'un réacteur dans une centrale nucléaire, avec panique générale dans cet endroit de la Pennsylvanie, et ce qui fait que suite à ça, c'était impossible de construire une nouvelle centrale nucléaire parce que les Américains ont eu vraiment peur. C'est le plus gros incident après Tchernobyl, Three Mile Island. Mais donc voilà, le nucléaire est de retour. Donc Barack Obama est un pro-nucléaire. Il a dit qu'il fallait construire des centrales sûres et propres. Alors, pour l'instant, aucune centrale n'est sûre et propre. Je sais pas, il va peut-être inventer un truc, ou une centrale qui créera pas de radioactivité. Ou alors c'est un menteur. Vous avez deux solutions, hein. Soit ils ont des concepts en avance sur tout le monde, les Américains, soit c'est un menteur. Moi j'aurais tendance à dire la deuxième solution, parce que le jour où le nucléaire sera propre et sûr, on en reparlera. Voilà, et puis pour parler du nucléaire, pour terminer, au Canada, 217 employés ont été contaminés dans une centrale nucléaire canadienne. C'est pour dire que les incidents nucléaires, il n'y en a pas qu'en France, il n'y en a pas qu'en Russie, en Ukraine ou dans des pays où on se dit toujours la sécurité, elle marche pas. Non, non, là c'est dans une centrale qui est en cours de remise en état, remise à neuf. Voilà, une fuite, 217 employés qui étaient présents ont été contaminés. Alors bien sûr, les instances disent que c'est pas grave. Mais on ne sait jamais avec le nucléaire. Bon, bah une dernière info, hein, puis après, c'est la fin. Lancement d'une campagne, c'est le site Survival, c'est l'association Survival International qui lance une campagne. Donc ils s'occupent des peuples autochtones et des peuples isolés. C'est au Paraguay que ça se passe. Alors on a souvent parlé du Brésil ou des pays où il y a en gros c'est en Amazonie, hein, où il y a des Indiens qui sont un peu isolés. Là c'est le Paraguay qui abrite un groupe d'Indiens isolés. Donc, je vous dirai pas le nom, parce que c'est imprononçable, de cette communauté, de cette tribu, je sais pas comment ils s'appellent eux-mêmes. Donc, ils sont dans un territoire qu'ils revendiquent depuis de nombreuses années, mais l'État paraguayen, comme finalement tous ces États issus des colonisations il y a longtemps, hein, du 16e siècle, a décidé de vendre le territoire. Et effectivement, c'est pour l'instant, ça appartient à des propriétaires privés, notamment à des entreprises qui travaillent dans l'agriculture industrielle et qui vont raser la forêt pour en faire des zones de pâturage pour de la viande bovine, pour nourrir les populations qui sont là-bas aussi friandes de viande. Et ça va détruire les lieux de vie et surtout de nourriture de ces Indiens qui vont donc disparaître dans l'indifférence générale. C'est un peu Avatar. James Cameron avait dit que Avatar c'est un film de fiction, mais que ce qui se passait sur le peuple d'Avatar, c'est ce qui se passait pour pas mal de tribus indiennes d'Amérique du Sud. Ben voilà, si les millions de personnes qui ont vu ce film pouvaient se mobiliser autant en allant au cinéma que pour les peuples qui sont vraiment concernés par ces problèmes-là, ça serait plutôt pas mal là. Voilà, un peuple de plus qui va disparaître. Il reste 5 minutes, ça va être l'heure de la bande à Spartacus. Nous n'avons plus rien, cher ami. Non. Allez, un petit rubrique culture, là, un peu, là.
Alors, qu'est-ce de quoi je peux vous parler culture
Du film des frères Cohen, peut-être.
Non, je vais vous dire que, par exemple, les ventes de DVD et de Blu-ray, elles sont pas en baisse.
Hein. Bon, je croyais que ça allait pas bien, moi.
Bah non, c'est pas vrai. Alors, si en valeur, ça a baissé, c'est peut-être parce qu'ils ont baissé leur prix. Ou en tout cas, qu'il y a d'autres circuits qui font que vous les avez en deuxième, troisième, quatrième main, sur des DVD neufs, hein, j'entends. En volume, ça réexplose un petit peu, ça repart bien. Donc, le mensonge que le téléchargement est tout le temps en train de tout abîmer...
Ouais, la plus grande preuve, c'est que il y a deux ans, le film français le plus téléchargé, c'était Bienvenue chez les Ch'tis. C'était aussi le film qui faisait, en même temps qu'il était le plus téléchargé, le plus d'entrées au cinéma. Aujourd'hui, je ne sais pas comment est téléchargé Avatar, mais ce qu'on peut dire, c'est que le film est téléchargé. Ça n'empêche pas de battre le record mondial du film le plus rentable du monde. Voilà. Donc, le téléchargement, c'est une fausse excuse.
Et puis les entrées au cinéma se portent pas si mal à Lyon, hein, ça va bien. Il y a juste un déplacement en fait des entrées. Il faut savoir que Lyon c'est une ville un peu particulière en France puisque c'est la première ville après Paris à avoir un nombre de fauteuils extrêmement important. En parlant de l'agglomération bien évidemment, puisque depuis quelques années le paysage des salles a beaucoup changé. Hein, il y en a de plus en plus en périphérie, des grands multiplex. Alors il faut savoir que c'est les multiplex de la Presqu'île qui sont un peu en chute. Hein, le Pathé Bellecour, l'UGC Cinécité, des cinémas qui sont rénovés et installés depuis déjà quelques années, qui avaient eu finalement un public assez habituel et qui est un petit peu en baisse au profit évidemment des multiplex comme par exemple celui de Brignais. Un truc énorme. La Part-Dieu, c'est pareil, hein, c'est en baisse. Et puis, le cinéma indépendant se porte pas trop mal. Évidemment, c'est le Comédia qui se porte le mieux. Il faut dire qu'ils ont une programmation qui est parfois la même qu'on va retrouver dans les gros cinémas Bah, des UIGC.
Oui, puis que le cinéma a été refait il n'y a pas longtemps, donc il y a aussi un confort qui n'est pas toujours le même que dans les vieux cinémas de centre-ville.
Ou même autour, il faut savoir qu'il y a des cinémas indépendants dans pratiquement toutes les villes autour de Lyon, donc le cinéma il est bien vivant, il est bien là, hein. C'est des salles qui tournent forcément pas toutes toute la semaine et sur tous les horaires, mais c'est quand même un cinéma qui vit et qui existe. Le Comédia a certainement remplacé l'absence des CNP, parce que même s'il reste deux CNP Bellecour et Terreau, ils vivotent un petit peu, ils ont une programmation un peu légère, ils ont plus de gros films pour attirer aussi le public, et le Comédia, lui, a su se rapprocher d'une programmation plus uniforme, hein, sur Lyon, ce qui n'est pas le cas dans notre ville, où vous allez avoir un film en VO qui va être proposé dans 2, 3, voire 4 salles, et donc il faudrait quand même coller avec ces chiffres qu'on nous donne actuellement les entrées des films, et puis s'apercevoir que c'est toujours un peu les mêmes oui. qui tirent les entrées, et que même sur les films dits moins grand public, finalement c'est partout pareil, ce sont ces films-là qui sont porteurs, donc le Comédia s'en sort pas trop mal, je saurais pas vous dire si leur trésorerie elle ouais. va bien, mais c'est vrai qu'ils sont en augmentation d'un certain nombre d'entrées, voilà, progressivement ça tient.
Mais c'est vrai qu'ils prennent pas de risques, les petits trucs ils les diffusent une fois par jour, à très peu d'horaires, enfin c'est... Voilà,
ouais. Alors ils se battent, hein, mais c'est vrai que les tout petits, ceux qui sont autour dont je vous parlais, il y en a beaucoup autour de Lyon, hein, eux ils sont en train de se faire bouffer par les plus gros, c'est-à-dire que celui de Brignais est en train quand même de tuer une partie des cinémas de proximité, hein, souvent des cinémas associatifs, donc ça c'est un petit peu dommage. D'autres survivent comme par exemple sur le 4e, ou par exemple la Villefranche, le Rex qui tient bien, mais c'est vrai que certains sont un petit peu en train de s'écrouler.
Mais c'est vrai que les Alizés par exemple, ou à Vénissieux, ils ont l'air plutôt de bien fonctionner. Ça.
Alors ils sont un petit peu en baisse aussi, ouais. Hein, ouais, parce que c'est vrai qu'ils perdent, il y a tellement de grosses choses qui sont en train de s'ouvrir autour que les gens sont toujours dans le renouveau, c'est aussi ça le principe d'appel du neuf, comme tu le disais tout à l'heure, les gens vont voir, et c'est vrai qu'il y a quand même une programmation un peu uniforme malgré tout, moins de films rares, hein, y en a pour les, il y a une ou deux copies en France, alors le temps qu'ils arrivent à Lyon c'est pas gagné, on va retrouver les films un peu partout au même endroit, ils sortent de plus en plus tôt en DVD aussi, hein, puisque la loi raccourcit la sortie en DVD, donc il va falloir que le secteur un jour arrête de se mordre la queue, de tourner en rond et de critiquer toujours ceux qui téléchargent à force de multiplier les DVD, de les sortir de plus en plus tôt, les gens vont moins dans les salles, et puis en ouvrant des multiplexes avec l'accord des municipalités bien souvent sur l'appel de ça à faire de l'emploi, on tue à côté des cinémas de proximité, certes souvent associatifs mais aussi, qui ont aussi du personnel et des salariés et qui eux avaient l'audace de proposer un peu des choses différentes.
Voilà, c'est la fin de ce Canu Info. Rendez-vous lundi, je crois, pour le prochain Canu Info, parce que demain, il n'y en a pas. 19h-20h, puis sur le site internet de radiocanu.org.
À bientôt.
Bye.
Tu bouges, t'es mort.
Le Canu Info, Radio Canu.